profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabriquent les concepts? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui suit plusieurs fils dans ses recherches, avec derrière son épaule, ou en tout cas jamais très loin, le visage de Michel Foucault. Parmi ses ouvrages, Le principe sécurité, Foucault et la folie, Désobéir, sont autant de textes dans lesquels la philosophie politique se confronte à notre époque et tente d'en déceler les mécanismes. Mais dans un tout autre registre, il a également écrit deux livres sur la marche à pied, dont le premier, Marcher, une philosophie, publié aux éditions Carnet Nord en 2008, était l'un des premiers du genre à confronter philosophie et activité physique. Plus tard, il a publié deux romans et nous avons 50 minutes ce matin pour comprendre la place que tient la philosophie dans sa tête et dans son cœur, où l'on trouve aussi beaucoup de mélancolie.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme jersey, celui qui vient les soirs de frime. Te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument, ô l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude.
Bonjour Frédéric Gros.
Bonjour Adèle.
Merci d'être avec nous ce matin depuis Fribourg en Suisse. Alors j'ai dit que vous étiez mélancolique, mais je l'ai déduit de votre goût pour Léo Ferré. Est-ce que j'ai raison?
Oui, mais c'est peut-être ce que Van Gogh appelait une mélancolie active. Je pense que effectivement, c'est depuis un point de mélancolie, un point de d'une certaine tristesse qualifiée qu'on peut avoir des idées, qu'on peut voir se dessiner des formes, voilà.
Et pourquoi Léo Ferré en particulier?
Léo Ferré, moi, ça a été un peu mon apprentissage. C'était à l'époque où il y avait des grands 33 tours et j'avais appris à lire pratiquement en essayant de dépler le texte « Il n'y a plus rien » qui était rédigé comme ça sur ces grands feuillets de 33 tours, et ça a été mon apprentissage politique et politico-poétique, quoi.
Les coquillages figurants sous les sunlight cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où nous remonte peu à peu. Cette mémoire des étoiles. cette rumeur qui vient de là, sous l'arcopin où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me... Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle,
commencer la journée avec 5 minutes 25 de Léo Ferré. On verra si ça donne le cafard ou au contraire si ça met en joie. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission. Frédéric Gros, je vous ai présenté comme philosophe. Est-ce que vous vous présentez comme philosophe?
De plus en plus, oui. Pendant longtemps, j'ai un peu refusé en disant, vous savez, moi je ne suis que professeur de philosophie, et peu à peu, alors est-ce que c'est la vanité qui monte avec l'âge? Mais c'est vrai que j'accepte ce qualificatif. Je le trouve ni trop arrogant, ni trop prétentieux. Et voilà, j'essaye d'y mettre le plus d'humilité possible. Mais oui, après tout, c'est quand même ce que je fais depuis quelques dizaines d'années.
Et comment vous définissez ce métier?
Alors, pendant longtemps, ce qui m'a plu, c'était quand même de raconter des histoires. Et c'est vrai que la philosophie, c'est aussi des narrations, c'est aussi des récits du monde, c'est aussi des manières de reparcourir l'histoire. Et de plus en plus, je considère que c'est une manière d'habiter le monde, d'habiter le nous-mêmes, hein, notre propre rapport à nous-mêmes, en nous familiarisant avec cette présence au moyen de ce qu'on appelle les concepts, quoi. Ce qu'on appelle les concepts, pour moi, c'est vraiment des vecteurs de familiarité, mais aussi d'étrangeté. En tout cas, c'est des manières d'habiter un peu différemment le rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes.
Comment ça, concrètement, comment un concept nous aide-t-il à mieux habiter le monde?
Il y a deux choses. Il peut y avoir un usage du langage comme communication, c'est-à-dire que chaque mot est un petit paquet de sens qu'on essaye de passer à l'autre, et à ce moment-là, ce qui va compter, c'est l'efficacité, c'est la rapidité, c'est aussi la capacité d'apprentissage. Mais on va réduire, si vous voulez, le mot à un petit paquet de sens, et puis les assemblages des mots, ça va faire des énoncés qui sont des paquets de sens aussi. Et ça, c'est un usage du langage qui est évidemment très très important. Et nous-mêmes, quand on a fait les réglages techniques, heureusement qu'on avait cet usage-là. Mm-hmm. Et puis quand on s'en déprend un peu, il y a aussi une manière de donner à sa propre expérience un certain nombre de dimensions, un certain nombre de couleurs, des colorations. Et ça, je pense que le concept nous y aide. C'est-à-dire que ça fait étinceler certaines choses, ça permet d'apaiser d'autres, ça en intensifie des troisièmes. Voilà, il me semble que le travail philosophique du concept, c'est de, comment dire, c'est en prenant des signifiants, hein, des mots qui sont quand même dans la banalité du langage, d'essayer de les travailler, de les déployer assez pour que, voilà, qu'ils nous servent aussi d'accompagnateur.
C'est intéressant parce que votre travail, je l'ai rapidement dit, et puis on va en parler ce matin, s'intéresse beaucoup à ce qu'on pourrait appeler la philosophie politique. Vous avez écrit sur la désobéissance, sur la violence, sur la sécurité. Et la manière que vous avez parlé de parler de l'utilisation des concepts, c'est en termes de couleur et d'intensité. Il y a quelque chose de très esthétique dans la manière dont vous en parlez.
Oui, c'est vrai, mais peut-être que je dissocie pas ou mal ou ou pas assez les deux, hein. C'est-à-dire que déjà dans ce que j'appelle la pensée politique, ce qui m'intéresse, c'est jamais la théorie politique ou la science politique objective, c'est-à-dire des tas de gens le font, et très très bien d'ailleurs, c'est-à-dire l'examen un petit peu objectif des institutions, des partages de pouvoir, des régulateurs sociaux, etc. Ce qui m'a intéressé dans la pensée politique, ça a toujours été des concepts transversaux qui, en tout cas, étaient toujours reliés de manière très forte à l'expérience du sujet. C'est-à-dire qu'au fond, oui, c'est même plutôt les subjectivités politiques qui se posent la question du rapport aux autres, du rapport au monde, du rapport à la transformation, qui m'intéressait, d'où le problème, vous l'avez dit, hein, de la désobéissance ou de l'obéissance d'ailleurs, parce que avec l'obéissance, on a le point d'articulation de l'éthique et du politique, c'est-à-dire que, vous voyez, on peut poser la question qu'est-ce qu'une loi, et dire des choses très passionnantes dessus, et puis on peut poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on obéit aux lois.
Mais comment ces thèmes de recherche, ces questions s'imposent-ils à vous? Là, vous parlez de la désobéissance, comment est-ce que un jour vous vous dites tiens, je vais écrire sur ce sujet-là?
Alors, bon, déjà, il y a un premier enclencheur qui est, si vous voulez, il faut d'abord un premier ouvrage, et ensuite, je crois que chaque nouvel ouvrage naît de la déception de l'autre. Vous parliez tout à l'heure de mélancolie, et au fond, je suis très sensible à, si vous voulez, à cette idée que par rapport aux immenses pianistes, aux grands violonistes ou à je ne sais quel virtuose, ceux qui avancent dans leur art deviennent quand même de plus en plus riches. Et c'est vrai qu'en avançant en philosophie, j'ai fait un peu l'expérience contraire, c'est-à-dire que plus j'avançais, plus au fond je me sentais moins virtuose, moins autorisé à parler, etc. C'est pour ça que finir un livre, c'est aussi mesurer l'étendue de ce qu'on n'a pas vu, de ce qu'on a raté. Et bon, bah, clairement, par exemple, c'est ainsi que se sont enclenchés, à partir de Marché, le problème de la désobéissance. Et puis après la désobéissance, aujourd'hui, le problème de la honte. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des inaperçus, des espèces de ratés qui enclenchent une nouvelle recherche. Mais enfin, c'est à la fois la déception du livre, mais aussi les appels évidemment de l'actualité, hein. J'aime bien l'idée de Foucault qui consiste à dire qu'au fond la pensée moderne, c'est celle qui réinterroge son histoire, mais évidemment sous la lumière un peu crue de son actualité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui.
C'est difficile de trouver un seul terme ou concept autour duquel s'articulerait tout votre travail. En revanche, il est très facile de trouver un seul nom et donc une seule voix qui semble le nourrir.
Pratiquement jusqu'à la fin du XVIe siècle, on a célébré dans l'Europe du Nord, en Flandre et dans la France du Nord également, des fêtes de fous qui se situé en général soit le 1er janvier, soit encore le 31 décembre. Et c'était l'apothéose, eh bien, de tous les petites gens, de tous les ignorants, de tous les gens qui ne savaient pas lire et écrire, qui se déguisaient en savants, en professeurs, etc. Et cette fête a eu suffisamment d'importance pour que non seulement elle se répande à travers toute l'Europe, mais pour qu'on en trouve, justement, dans des œuvres aussi importantes que Don Quichotte, une sorte d'écho.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe ce matin en compagnie de Frédéric Gros, qui est avec nous depuis Fribourg en Suisse, et vous venez d'entendre la voix de Michel Foucault. Michel Foucault, est-ce que c'est par lui que vous avez eu envie ou découvert la philosophie, Frédéric Gros?
Pas directement, mais enfin ça a été d'abord par Nietzsche, c'était quand même pas très loin de Foucault, ce qui ça représente autant Nietzsche que Foucault, j'allais dire les pires initiateurs à la philosophie.
Ah oui.
C'est à chaque fois l'indication du mouvement d'en sortir ou la dénonciation des limites. Et c'est vrai que peut-être que ce que je recherchais, en tout cas, c'était des auteurs qui me mettaient dans des positions d'instabilité, de mauvaise foi, en tout cas d'inquiétude par rapport à l'autorisation de se dire, de se croire, de se penser philosophe. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur Michel Foucault, c'était évidemment il y a très longtemps, il était mort il y a quelques années, il y a 5-6 ans. Et c'est vrai que je l'ai fait surtout par l'intermédiaire de sa voix, c'est-à-dire que j'allais écouter, c'était des cassettes à l'époque à la bibliothèque du Collège de France pour essayer de repérer un peu des choses. Et j'ai été sensible à deux choses d'abord, qui sont paraphilosophiques. D'abord à son extraordinaire diction et articulation que je trouve très fascinante, c'est-à-dire c'est vraiment une voix qui entraîne, c'est vraiment une voix qui capte. Il y a des choses qui me semblent très puissantes dans les vibrations même sonores de sa voix. Et puis aussi, on l'a entendu dès le début de l'extrait que vous avez passé, l'extraordinaire puissance narrative qu'il déploie à chaque fois, c'est-à-dire que c'est quand même toujours des histoires qui racontent. Donc cette idée de ressaisir cette actualité à partir du dessin de rupture, de réinvention, en tout cas de prendre d'être immédiatement dans une philosophie du parcours plutôt que dans une philosophie des essences, je crois que c'est ça qui m'a plu, c'est cette espèce de dynamique qu'on retrouve aussi complètement éclatée chez Nietzsche, où à chaque fois les aphorismes sont des espèces de mini-récits explosifs.
Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'est notre présent? Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui?
C'était juste pour le plaisir de l'entendre à nouveau, Frédéric Gros. Est-ce que vous pensez que la philosophie est aussi une affaire de voix, puisque vous insistez sur sa voix?
Disons que ce que j'aime dans la philosophie telle que je la pratique, après moi on est très mal à l'aise avec sa propre voix, mais c'est en tout cas la parole. Alors c'est un peu distinct de la voix, mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai approché Foucault davantage par ses cours au Collège de France que par ses livres. Et bon, vous le savez, on en parlera peut-être. J'ai passé beaucoup de temps à l'éditer.
Voilà, vous avez édité les cours au Collège de France de Michel Foucault.
Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire à faire cet effort de transcription d'une parole en écrit qui me laissait l'espèce de songe. D'une espèce d'écriture qui soit une écriture parlée, qui soit assez proche de la parole. Et donc c'est vrai que ce qui me plaît dans la philosophie, c'est la dimension de l'adresse, c'est la dimension de la parole. Et assez vite, je me suis éloigné de l'idée que la philosophie, mais ce qui a complètement sa légitimité, serait et pourrait se présenter comme un système de connaissances, comme une articulation démonstrative de concepts. Et je me suis tourné, oui, vers l'idée d'une philosophie comme une certaine adresse, une certaine injonction, une certaine manière de parler aux autres et de faire retentir en soi-même cette adresse, c'est-à-dire, c'est pour aller vite, ses racines socratiques.
Oui, mais alors ça veut dire que ça passe par le dialogue, par l'oral et non pas par l'écrit. Et pourtant, vous avez écrit plusieurs essais de philosophie et des romans.
Oui, mais je crois que la vraie différence, elle n'est pas entre l'écrit et la parole, mais parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup, mais comme on dit, qui parlent comme des livres et qui récitent. C'est-à-dire il y a une manière d'écrire en se tenant au plus près de cette source vive de la parole, comme il y a une manière de parler en collant à des énoncés qu'on récite. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, la différence entre l'écriture et la parole est pas tant pour moi une différence matérielle qu'une différence entre accepter quand on parle ou quand on écrit de se mettre à la verticale de sa puissance de pensée, de son jugement, et voilà. Et après, on peut essayer d'écrire dans cette même posture. Mais c'est cette posture qui m'intéresse. Et c'est vrai que ce qui me plaît, c'est pour ça que je, décidément, j'aime l'enseignement, parce que quand j'écris, si vous voulez, alors on peut écrire, on peut préparer ses cours, mais c'est ce qui est toujours très, très impressionnant quand il s'agit d'effectuer sa pensée dans la parole, c'est-à-dire de l'adresser, c'est que c'est une vraie pierre de touche, c'est une vraie épreuve. C'est là qu'on se rend compte si ça tient ou si ça tient pas, si ça vaut le coup, si ça a de la valeur, etc. C'est-à-dire cette dimension dialogique, mais qui peut même se servir d'un simple support. J'ai fait cette année essentiellement des cours en distanciel, et je me disais, mais après tout, justement, ça va plus marcher, ça, cette dimension d'épreuve, parce que je ne vais plus voir dans leurs yeux, dans leur mou, dans leur réaction, etc., de quoi me corriger. Mais en fait, la simple effectuation verbale suffit quand même à ce qu'on se dise, mais enfin, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment n'importe quoi.
Ah, donc c'est ça, les étudiants, ils sont là pour vous corriger ?
Ah oui, pour me corriger, pour m'apprendre, et je fais auprès d'eux les preuves de ce que j'élabore. En tout cas, pas pour simplement recevoir, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pas simplement pour recevoir des petits paquets de sens, tout préparés, etc. Et d'ailleurs, ils réagissent aussi, hein. C'est justement ça qui est intéressant.
La philosophie est une affaire de parole, de dialogue, mais aussi, et peut-être avant tout, de corps et de corps qui rentrent en action.
Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein? Non. Si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. Hein? On est ici pour profiter de la nature. D'accord? Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
Hein? Oui. L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. C'est excessivement simple, comme ceci. 1, 2, 3, inspiration, petit pas de pause, 1, 2, 3, expiration, et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas, d'accord Mathieu? Et vous allez très vite vous rendre compte que tout votre corps rentre en action.
Et oui, dans La Randonnée également, c'est un extrait du film Les Randonneurs, hein, le film de Philippe Harel qui date de 1997. Votre livre sur la marche, Frédéric Gros, date lui de 2008. Je ne sais pas si vous êtes le Benoît Poulvorde de la philosophie, mais en tout cas, dans ce livre-là, vous avez effectué quelque chose qui, à l'époque, ne se faisait pas, qui était une manière de ressaisir par la philosophie une activité physique qui est la marche, de montrer comment le corps lui-même et le rythme que le corps impose à la pensée pouvait être quelque chose de fécond pour la philosophie.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en écoutant l'extrait, je me dis que, hélas, peut-être d'ailleurs, mais enfin, je dis pas grand-chose de plus que ce qui a été...
Quand même.
Non, oui, bah, enfin bon, c'est presque humiliant, mais c'est vrai. J'aurais peu de choses à rajouter à ce que disait Benoît Poulvorde ici. Non, c'est vrai que ce qui m'a plu en écrivant ce livre sur la marche, bon. D'abord, c'était l'éclatement disciplinaire, parce que les grandes figures de marcheurs, elles étaient philosophiques et très prestigieuses pour moi. On reprend Nietzsche, mais il y avait aussi Rousseau, il y a aussi Kierkegaard. Enfin, il y a cette légende de la philosophie en marchant qui est une légende grecque, mais il y avait aussi des figures littéraires comme Nerval, comme Rimbaud. Donc ça me permettait de faire exploser ça, de construire des espèces de miettes philosophiques, pour reprendre l'expression de Kierkegaard. Et surtout, peut-être... C'est vrai que ça donnait lieu à une nouvelle pensée du corps. C'est-à-dire que le dualisme, évidemment, ne tenait plus pour autant qu'il a tenu un jour. Et puis, c'est...
Ah, je crois qu'on vient de... On vient de vous perdre, Frédéric Roux. On va essayer de vous recontacter. En attendant, je vous propose qu'on écoute un autre extrait qui concerne une autre partie de votre travail, qu'on va commenter dans un instant. Voici un extrait de film. Attention, les oreilles sensibles doivent s'écarter un tout petit peu du poste.
Oh, dire que je me suis prostituée en pur père pour... Oh, Dieu ! Je me suis prostituée, oui, prostituée ! Il avait promis de faire de moi une princesse à la cour de Satan. Il m'a emmenée à un sabbat de sorcière. Il s'est jeté avec voracité sur mon corps. Il était nu. Et j'ai vu qu'il portait les cinq stigmates des démons. Le premier sur l'épaule. Le second sur la langue. Le troisième sur la croupe. Le quatrième et le cinquième sur les testicules. Un sur le gauche. Un sur le droit. Si l'on coupe vous pique à cet endroit de l'être et qu'il ne coule pas de sang, c'est alors le signe indéniable du démon.
Non.
Est-ce que vous êtes revenu, Frédéric Gros?
Oui, oui, tout à fait. Oui, je suis désolé, mais enfin, ça arrive.
Ah bah oui, ça arrive. Et ça, vous inquiétez pas, tous les matins en ce moment, vous savez, on s'adapte à la situation. C'est les possédés de Loudun qui vous ont fait revenir. Est-ce que vous avez pu entendre?
Ah oui, ça doit être ça.
Oui, oui, bah c'est ça. En fait, on a entendu un extrait du film de Ken Russell qui date de 71, qui s'appelle Les Diables, et c'est en écho au livre que vous avez écrit, parce que vous avez aussi écrit un roman. Deux même d'ailleurs. Celui-ci en question s'appelle Les Possédés. Il revient sur cette affaire des démons de Loudun. Qu'est-ce que c'est que cette affaire?
Alors c'est vrai, c'était une affaire qui m'a toujours fasciné. C'est une affaire de possession diabolique, mais qui est étrangement à la verticale d'un grand bouleversement politique. On est sous Louis XIII, on est sous Richelieu peut-être surtout, et on est au moment où quelque chose comme une raison d'État s'affirme et où des liens un peu curieux s'établissent avec la religion. Alors on parlait à propos de la marche, on parlait de corps, du ouais. corps marchand, du corps marcheur. Et j'indiquais qu'effectivement, pour moi, l'activité physique de la marche était très fécondante pour penser le corps. Et on est encore dans une affaire de corps ici, mais avec une inscription politique du corps, quoi. Et c'est vrai que la possession est un phénomène étrangement et complètement corporel. Enfin, pour autant qu'on n'avalise pas la version radicale qui consisterait à affirmer l'authenticité de la possession, c'est-à-dire le fait que des diables habitent les corps. Et en tout cas, j'ai trouvé que c'était une manière pour les corps, et précisément les corps féminins, de contester, de se révolter, de se moquer aussi, et en tout cas de constituer des formidables opérateurs d'inquiétude pour le pouvoir politique. En tout cas, c'est comme ça que ça a marché.
Et ancrer la réflexion dans le corps, parce que c'est plus qu'un objet de réflexion pour vous, le corps, c'est vraiment presque un point de départ, c'est ce qu'on voit très bien dans le livre sur la marche. Est-ce que c'est une manière de montrer que justement la philosophie n'est pas qu'une affaire d'argumentation et de réflexion, mais qu'elle est aussi, dans une perspective peut-être plus nietzschéenne, elle se nourrit aussi du rythme et du mouvement du corps, qu'au fond on ne peut pas dissocier les deux, y compris en philosophie?
Tout à fait, il y a deux ou trois choses, c'est-à-dire il y a l'idée qu'effectivement c'est indissociable, et il y a cette idée qu'on trouve chez Nietzsche, enfin je radicalise peut-être un peu, qu'au fond le corps est en avance sur la pensée, c'est-à-dire que les processus corporels sont d'une intelligence, d'une rapidité, d'une fluidité qui dépasse infiniment les capacités intellectuelles et auprès desquelles l'exercice du jugement apparaît comme comme faiblard, pataud, etc. On s'aperçoit aujourd'hui en grande période de pandémie. Il y a une science qui s'est développée depuis quelques décennies, qui est la science de l'immunologie, c'est-à-dire la manière dont le corps se défend, se reconstitue, qui est une formidable lecture politique du rapport à l'autre, de la négociation sans cesse relancée du soi et du non-soi. L'idée, c'est vraiment que le corps est en avance et qu'il déborde et que ce qu'on reçoit comme faibles signaux de la conscience et qu'on élabore, sont finalement tout ça et j'allais dire relativement un peu pâteau par rapport à cette immense intelligence du corps. Et puisque vous me posez la question, c'est vrai que maintenant je m'aperçois que c'est aussi dans le deuxième roman sur Mesmer, sur toute l'histoire du fluide magnétique au moment de la Révolution française.
Le guérisseur des Lumières, c'est le titre de votre deuxième roman.
Exactement, c'est ce qui me plaisait aussi, c'est-à-dire cette idée d'une approche purement corporelle et où la conjugaison des corps vont produire des choses qui dépassent la pensée. Voilà, c'est vraiment l'idée d'une intelligence du corps qui surplombe même ce qu'on peut en recevoir.
Et pourquoi avoir écrit des romans?
Pourquoi? C'est vrai que le marché m'avait fait un peu basculer du côté du...
Donc le marché, c'est votre livre Marché, une philosophie.
Oui, c'est ça.
Pas le marché financier.
Oui, c'est vrai, c'est pas le marché.
J'en sais rien.
Pas encore. C'est pas le marché financier, même si la marche devient et est devenue aussi sans doute une activité peut-être lucrative pour certains. En tout cas, ce qui m'a plu, c'est je trouve qu'on a une tradition française qui est quand même une tradition du style et dans laquelle même l'effort philosophique va de pair de Bergson, Foucault, Descartes, etc., avec une recherche stylistique qui soit la plus fine possible. Et au fond, je trouve que, peut-être que c'est mon côté 18e siècle, que les frontières entre la philosophie et le roman sont pas aussi étanches que ça. Et c'est vrai que c'était une manière pour moi de réinterroger la politique, le corps, la sexualité, le désir, dans une dimension beaucoup plus incarnée et en me servant d'histoires qui sont, parce qu'à chaque fois ce sont des romans historiques, parce que peut-être que j'ai même pas assez d'imagination, si vous voulez, pour sortir tout ça de moi-même, mais à partir de situations complètement incarnées, les développer, etc., c'est vrai que ça me... c'est un exercice qui m'est apparu à un moment nécessaire.
Mais c'est la même affaire, écrire un essai de philosophie, écrire un roman ? On s'y prend de la même façon ?
On s'y prend un peu de la même façon dans un premier temps qui est le temps de la lecture. C'est vrai que la manière dont j'écris aussi bien les livres de philosophie que les romans est d'abord une manière de me constituer un certain paysage. Alors ça peut être le paysage de la guerre, le paysage de la marche, le paysage de la honte ou un certain paysage beaucoup plus déterminé historique. Donc on recoupe des lectures, mais pas seulement des lectures. On essaye de lire des livres de philosophie, des romans, des poèmes, de voir des films comme celui dont vous nous avez donné l'extrait, etc. Et c'est vrai qu'en recoupant toutes ces lectures, mais de manière très, très extensive, sans prendre forcément de notes, en relisant parfois, ça finit par former un certain paysage, et puis à un moment le paysage est mûr et on se décide à le décrire. Simplement, c'est vrai que la différence va être que pour le roman, il va falloir décider d'une trame dramatique qui est un peu plus linéaire, c'est-à-dire au fond construire des chapitres qui vont correspondre à des séquences d'action, à des rencontres, etc. Alors que pour les livres de philosophie, ça va être une architecture un peu plus générale. Il pourra y avoir aussi des renversements peut-être, mais en tout cas c'est vrai que c'est beaucoup plus spatial évidemment. Il n'y a pas de trame chronologique à tenir. C'est une composition qui est beaucoup plus en tableau.
Si on s'approche de votre cœur, on entend Gina Rowlands.
Okay, now a song from you, Billy Tidrow.
No, I can't sing. I can't sing a note.
Well, come on and dance.
and anybody can dance.
No, that ain't too cool.
Il me plaît ce visage. Ce visage me plaît. Nick, voilà ce que moi j'appelle une belle tête.
Non, ça suffit.
Allez, venez, on danse.
Non, non, je veux.
Regardez-moi ces biceps. J'ai jamais vu des muscles comme ça. Il doit pas trouver de costume à sa taille.
Maribel, assez rigolé, ça suffit.
Allez, venez, on danse. Tout le monde, allez.
Je t'en prie, tout le monde est crevé, ça suffit.
Vous, vous voulez danser?
Non.
Vite au grimoire.
Pense ton cul, mon Dieu.
Et oui, si vous ressentez un peu de honte, c'est normal et c'est peut-être même l'idée de cet extrait. Frédéric Gros, c'est un extrait du film Une femme sous influence de John Cassavetes qui date de 1974. Pourquoi ce film vous parle-t-il autant?
Ce film m'a toujours, et d'ailleurs précisément cette scène que vous avez mentionnée, m'a toujours absolument bouleversé. Quand je dis bouleversé, c'est que j'ai même parfois du mal à les regarder parce que très physiquement, je suis pris, je frissonne, j'ai envie de me lever. Et cette scène-là est une scène de... Ou alors on joue sur effectivement la frontière là aussi poreuse entre la raison et la folie. On est avec une personnalité mais terriblement attachante et en même temps on dirait aujourd'hui borderline. Et c'est vrai qu'on l'a on a là cette scène qui est une scène de honte mais où la honte s'installe comme quelque chose de très très objectif, une espèce d'état laiteux où personne ne sait exactement comment réagir et il faut l'intervention finale, j'allais dire, de Peter Falk, je ne sais plus comment il s'appelle dans le...
Nick.
De Nick pour casser les choses et c'est vrai que voilà, c'est vraiment, après cinématographiquement, je connais pas grand chose, mais c'est vrai que c'est une manière de filmer la honte qui me paraît magistrale.
Et c'est un thème qui vous intéresse en ce moment, la honte?
Oui, parce que là aussi, c'était peut-être dans la suite de la désobéissance. Quand je dis dans la suite de la désobéissance, c'est que j'ai quand même tenu un peu sur un axe qui était celui d'Anna Arendt sous celui d'Yankelevitch, etc., mais qui était peut-être une vision un peu trop intellectualiste. Ce que je veux dire par là, c'est que la question que je me posais à la fin du livre, qui était un livre sur la difficulté de la désobéissance, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile de désobéir. Mais quand je dis désobéir, c'est effectivement, je parle pas ni des incivilités, ni des délits, ni de la criminalité. Mais qu'est-ce qui fait que quand on est face à des injustices, à des décrets politiques ignominieux, qu'est-ce qui fait que ça continue quand même à marcher? Qu'est-ce qui fait que on a des difficultés au sein des institutions? Et c'est vrai que l'axe que j'avais à partir d'Arendt, c'était celui de la banalité du mal, c'est-à-dire de dire au fond qu'est-ce que c'est que l'obéissance. C'est un manque de pensée, parce que ça demande du courage de penser, d'être comme ce que j'appelais à la verticale de sa propre pensée, et qu'au fond, ce qui est facile, c'est réciter, ce qui est facile, c'est penser comme c'est écrit dans les livres. Donc
Non, c'est ce que Arendt dit d'Eichmann, justement, c'est qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres et qu'il n'a pas vraiment eu le courage de la pensée, comme vous dites.
C'est ça, c'est ce qu'elle appelle la bêtise d'Eichmann, mais qui n'est pas une bêtise excusante. Alors ça a été le grand malentendu, parce qu'on a dit, enfin, elle dit qu'il est bête, donc elle l'excuse. Mais on est responsable de sa bêtise, c'est-à-dire que quand on a son âge, et ce qu'elle essayait de penser, c'est précisément cette bêtise dont on est responsable, c'est-à-dire ce moment où on ne veut pas voir, où on ne veut pas penser, parce que ça nous dérangerait. Cela dit... C'est vrai que ce qui me satisfait pas, c'est que, si vous voulez, on peut penser avec ça seulement des désobéissances qui sont ponctuelles, qui sont individuelles, et que je crois de plus en plus que la vraie banalité du mal, c'est pas l'absence de pensée, c'est l'absence d'imagination. C'est l'absence d'imagination et précisément, il existe un certain nombre d'affects qui sont des affects éthico-politiques qui marchent à l'imagination, comme la colère et comme la honte. Et je crois que la honte, une certaine honte, c'est pas pour rien que Marx écrit que la honte est un sentiment révolutionnaire, je crois qu'il faut avoir honte, quoi, et que, et, Et peut-être qu'on en a trop fait, même si c'est effectivement une dimension de la honte qui est tout à fait capitale, dans la dénonciation de la honte tristesse, de cette honte qu'il faut dépasser parce qu'elle nous, elle nous condamne à la solitude, à l'indicible et à la souffrance. Mais il y a aussi une honte qui est provoquée par le spectacle du monde. Il y a la honte d'être un homme dont parlait Primo Levi. Et toute cette honte-là, je crois qu'elle est importante aujourd'hui et qu'elle relève d'un effort d'imagination. Si on n'a pas assez honte de l'état du monde aujourd'hui, c'est au fond parce qu'on manque d'imagination et que tout conspire.
Sans complotisme.
C'est parti de théorie du complot, mais en tout cas, c'est vrai que un certain nombre de dispositifs sont là pour barrer l'imagination.
Est-ce que vous vous souvenez à qui vous avez dédié votre livre Désobéir ?
Oui, à Gérard Mordillat, bien sûr, parce que c'est un ami et que voilà, l'amitié fait partie des réseaux politiques importants. Ouais.
Eh bien, il a tenu à vous laisser un message.
Le Covid-19 permet aux États de mener à un niveau mondial un exercice de soumission à l'autorité comme aucun sociologue n'aurait rêvé de le faire. On obéit. Pourquoi obéit-on ? Ça, c'est la question. Alors, je pense que Frédéric m'a dédié le livre parce que, ni lui ni moi, nous sommes d'un caractère très obéissant.
Et ça, c'est Gérard Mordillat qui le dit. Frédéric Gros, vous lui donnez raison ?
Je lui donne raison. Moi, je pense être beaucoup plus sage que lui, en tout cas, beaucoup moins engagé. Mais c'est vrai qu'on a, on a une colère de fond. Vous me posiez même la question sur Léo Ferré. Ça a été pour moi un apprentissage de la colère et la honte. C'est une forme de colère. Donc, je lui donne raison. Oui. Alors sur le Covid, effectivement, il faudrait développer. Mais c'est vrai que c'est un nouveau style d'obéissance est apparu à partir, j'allais dire, de ce mal qui a cette spécificité quand même de mettre au premier plan ce qu'on appelle les porteurs saints, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est une ça dissocie le propre du Covid-19, c'est précisément qu'on peut être malade sans le savoir. Donc, si vous voulez, la sensibilité de soi-même est complètement étrangère à la maladie, et donc il faut que cette maladie soit attestée objectivement. Et donc ça a donné lieu à des formes, comment dire, d'obéissance dans lesquelles et pour lesquelles la désobéissance apparaissait comme directement criminelle. Mmh. Voilà, il y a eu ce branchement. Que je trouve, oui, il y a deux choses que je trouve localement évidemment tout à fait important, et il s'agit absolument pas d'être irresponsable en disant que c'est un complot mondial pour nous faire obéir. C'est absolument pas ce que je dis, mais je dis que ça a permis des synthèses éthico-politiques, sur lesquelles on pourra faire fond dorénavant. Ça c'est l'histoire. Ça permet des nouvelles synthèses dans lesquelles, par exemple, on se replie sur soi et on fait passer des formes qu'on appelait autrefois d'égoïsme pour des manifestations de solidarité. Donc je trouve qu'effectivement c'est une vraie rupture dans la construction de l'obéissance.
Mais est-ce que vous allez jusqu'à en appeler à une forme de désobéissance dans le cadre de la pandémie et du confinement ?
Ah non, j'en appelle à des formes de vigilance, parce que non, si vous voulez, qu'est-ce que ça voudrait dire en appeler à la désobéissance, c'est-à-dire sortez sans masque, embrassez tout le monde dans la rue? Non, pas du tout, mais si vous voulez être vigilant sur si vous voulez, il existe dans chaque décret administratif et politique des valises diplomatiques éthico-politiques, c'est-à-dire ce que par en dessous on essaye de nous faire avaler, il faut rester vigilant là-dessus. Et c'est ça la désobéissance. Depuis le texte des Lumières, c'est refuser le obéissez sans réfléchir. Et le fait de continuer à se poser des questions, à dénoncer, oui, bien sûr que ça, je trouve que c'est très précieux. Et encore une fois, pour reprendre ce qu'on disait auparavant, continuer à cultiver son imagination pour d'autres formes de solidarité, etc., de vivre ensemble. Mais c'est vrai que ça demeure ce qu'on vit depuis le mois de mars dernier. Constitue une vraie rupture.
Et une autre forme d'actualité, même si on reste dans la honte.
Ce qui nous a fait honte à tous, c'est que les policiers ne soient pas exemplaires. Et je pense que tous les policiers de France, les gendarmes, tous ceux qui sont dans les forces de sécurité, ont ressenti la même chose. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils se sont comportés de cette manière. Il n'y a rien qui l'excuse et qui le justifie. La justice s'en est saisie et il ne m'appartient pas... Moi, d'aller plus loin sur ce sujet. Ce qui m'a fait honte sont les faits, au-delà des images.
Le 21 novembre dernier, le producteur Michel Zecler a été tabassé par une équipe de 3 policiers dans le 17e arrondissement de Paris. L'agression a été filmée par des caméras de sécurité et quelques jours plus tard, c'était le 4 décembre 2020, dans l'interview qu'il a accordée à Brut, Emmanuel Macron reconnaissait le terme de violence policière et, vous aurez remarqué, le mot qu'il emploie pour qualifier cet événement, c'est celui de honte, Frédéric Gros.
Oui, c'est un signifiant qui, alors on peut penser aussi à la cérémonie des Césars, on peut penser c'était...
Le César de la honte, oui.
César de la honte, et puis au moment où on a parlé du ministère de la honte, quand Gérald Darmanin a été promu, c'est vraiment un signifiant politique qui devient très partagé, ça rentre dans le débat public, et puis c'est vrai qu'on rentre dans des époques d'inégalités socio-économiques qui relèvent même plus de l'injustice, mais de l'obscénité, et qui ne peuvent que susciter ce vocabulaire de la honte. Donc c'est vrai que ça redevient un affect politique aussi, et je trouve que c'est très important pour ça. Au-delà de ça,
sur la question des violences policières que vous souhaitiez aborder.
Oui, la question des violences policières, ce qui a été très très magistral dans cela, c'est qu'au fond, vous le savez comme moi, on est obligé de faire de la philosophie quand on parle de violence policière, parce qu'on est obligé de s'interroger justement sur le concept, qu'est-ce qui légitime un concept. Et quand Emmanuel Macron disait autrefois ce qui se tient nominalement, qu'on ne peut pas parler de violence policière dans un état de droit parce qu'un policier fait usage de sa force, mais par définition n'use pas de violence, ça s'entend et ça, sa légitimité, mais ces légitimités-là se fracassent face au spectacle réel de policiers qui tabassent un homme seul. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut faire du Hobbes tant qu'on veut, faire des constructions terminologiques qui disent bah oui, on décide quand même des concepts. Alors violence, non, on peut pas l'employer là-dessus parce que c'est de l'usage peut-être disproportionné de la force. Mais étant donné qu'il s'agit de représentants de l'État, c'est pas de la violence parce que précisément ils ont ce monopole d'une violence légitime et que la violence légitime n'est pas de la violence, etc., etc. Tout ça, ce sont des fictions qui nous font tenir, mais qui à chaque fois se fracassent contre ce qu'on appelle le réel. Quoi. Le réel, c'est qu'à un moment, ça nous sort de la bouche, ce mot-là de violence, et qu'on ne peut pas dire et on ne peut pas rentrer dans des distinctions terminologiques. Donc dans ce... la politique, c'est ça aussi, c'est ce va-et-vient entre des fictions qu'on essaye d'articuler et de faire tenir, et puis des réalités comme celle du racisme, des violences policières, etc.
Et là, le philosophe a un rôle à jouer directement ?
Un rôle à jouer au sens où j'aime bien cette définition que donne Foucault dans le cours de 83 où il parle de Platon en se disant mais qu'est-ce qu'il est allé faire à Syracuse, et il se pose la question mais au fond est-ce qu'un philosophe doit s'engager, est-ce qu'il doit militer, est-ce qu'il doit et il en vient à la solution parce que il voit bien que Socrate lui-même, non seulement s'est pas engagé, mais enfin dit, vous savez, si je m'étais engagé politiquement, je serais mort déjà depuis très longtemps. Donc non, le jeu en vaut pas la partie. Qu'au fond, chacun dans son rôle, et que le rôle de la philosophie, c'est, je cite de mémoire et j'essaie de l'entendre comme ça, c'est ce qu'il appelle introduire la différence d'un dire vrai dans un jeu politique. Mmh. Et la différence d'un dire vrai, c'est essayer de poser les bonnes questions, c'est tenter de faire que personne ne soit vraiment quitte avec ses certitudes à partir du moment où ces certitudes sont un refuge pour la lâcheté.
Merci beaucoup Frédéric Gros pour vos mots et d'avoir discuté à ce micro ce matin. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Les trois derniers sont publiés chez Albin Michel, Le guérisseur des Lumières, le roman, Désobéir aussi aux éditions Albin Michel, ainsi que Posséder, EES. Marcher, une philosophie disponible aux éditions Carnet Nord. On se quitte, enfin les cours au Collège de France de Michel Foucault aussi sont disponibles, ça vous pouvez vous les procurer facilement. On se quitte avec une chanson, c'est votre choix Frédéric Gros. Le chanteur s'appelle Vinicius de Moraes, est-ce que vous voulez nous en dire un mot?
Oh non, c'est juste du pur bonheur. Chaque fois que je menace de trop sombrer, j'écoute ça et je repars. Donc c'est de la pure médecine musicale.
Alors merci beaucoup et à bientôt, j'espère.
À bientôt, au revoir.
Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama desce a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo.
Léo Ferré à Vinicius de Moraes, choisissez l'ambiance du jour sur France Culture, les chemins de la philosophie, comme tous les vendredis. C'est le moment de retrouver notre moment instant archive. La philo dans le rétro, on vous donne à entendre chaque semaine la voix de philosophes qu'on a pu garder. Aujourd'hui, celle de Roland Barthes, puisqu'il nous a accompagné cette semaine, une archive du 25 février 1977, dans laquelle Roland Barthes explique, décrit son amour pour Paris.
Vous croyez avoir la radio?
Vous n'aurez vraiment la radio qu'avec un poste moderne.
C'est une formule absolument banale, mais enfin je dis sans honte, j'ai toujours aimé et même adoré Paris. Paris a changé depuis que j'ai connu. J'habite Paris depuis l'âge de 10 ans, c'est-à-dire depuis une cinquantaine d'années, et j'ai toujours habité ce quartier de Saint-Germain-des-Prés, dont j'ai donc traversé toutes les modes successives. Quand j'étais adolescent ou même enfant, c'est-à-dire quand j'allais au lycée Montaigne et ensuite au lycée Louis-le-Grand, Saint-Germain-des-Prés était un quartier absolument et rigoureusement provincial. C'était un quartier de libraires, d'antiquaires, très peu surchargé de monde, avec quelques arbres sur la place devant l'église. Il y avait certes les deux Magots et le Flore, mais qui étaient des cafés à moitié vides, enfin très étouffés, très paisibles. Et ensuite, bien sûr, alors j'ai traversé aussi les autres modes de Saint-Germain-des-Prés, et en dépit de toutes ces modes, je suis resté fidèle à Saint-Germain-des-Prés. C'est un quartier que j'aime assez. Alors, ce que j'aime à Paris, finalement, c'est que Paris ne s'oppose pas purement et simplement à la province. Il faudrait faire là construction de type logique ou topologique. Ce qu'il y a de bien dans Paris, c'est que justement, il y a de la province dans Paris. Oui. Ce n'est pas le contraire de la province. C'est la province plus quelque chose. Il y a dans Paris ce qu'on appelle maintenant un plus de sens. Oui. Et c'est ça qui me fascine dans Paris. Mais cela dit, pour le fond, comme beaucoup de Parisiens, je vis à Paris comme si j'étais dans une province. Je ne sors pour ainsi dire pas de mon quartier que je connais par cœur. J'ai mes routines au sens étymologique du mot, c'est-à-dire mes petites routes qui me conduisent toujours aux mêmes endroits.
Mais t'es insulaire de votre...
Oui, il y a des quartiers de Paris que je ne connais pour ainsi dire pas, où je ne vais jamais. Et quand par hasard j'y vais, j'ai une impression de dépaysement très très forte, comme si j'allais vraiment dans une autre ville.
Oui. Est-ce que la promenade sans but ou l'errance dans la ville et dans la ville en train de s'abîmer peut-être dans une sorte de perte, est-ce que cette errance dans la ville et l'errance de l'écriture entretiennent pour vous un rapport? Est-ce que écrire est un peu cette circulation sans but ou est-ce que au contraire c'est complètement ressaisi?
C'est pas du tout le même rythme. D'ailleurs, en fait, quand je suis dans une ville, je n'erre pas, je n'aime pas. Marcher à l'aventure, marcher pour rien, j'en suis incapable.
Vous donner des buts.
Absolument. Il faut que... C'est pour ça que, par exemple, à l'étranger, ce qu'on appelle le shopping est très important pour moi. J'aime beaucoup le shopping. Parce que, pas tellement par le fait que ça me fait acheter des choses, que souvent je ne peux pas acheter d'ailleurs, mais parce que ça donne un but, justement. Et je n'aime pas du tout, par exemple, même à la campagne, je serais incapable de dire, bon, ben, je vais faire une promenade. Je sors, je vais faire une promenade. Non, il faut que je puisse me dire, je vais chercher du lait, je vais chercher de la papeterie dans la ville voisine, etc. Et alors, à ce moment-là, en y allant, je vois évidemment des tas de choses. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Il faut toujours de l'indirect, il faut placer. Voilà la grande règle éthique, n'est-ce pas ? Il faut placer ce qui est important en position d'indirect.
Oui, le latéraliser.
Oui, c'est ça. Il ne faut pas le focaliser. Sinon, en tout cas, moi, je perds absolument tous mes moyens.
Et oui, aller faire du shopping et acheter de la papeterie en compagnie de Roland Barthes, c'est possible dans cette archive. Donc, du 25 février 1977, vous avez entendu la voix de Jean-Marie Benoît. Il y avait aussi Bernard-Henri Lévy à ses côtés. Une archive, évidemment, France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Clara de Giovanni, Avril Poignant-Le Goff, dont le stage se termine aujourd'hui. Merci Avril, à bientôt j'espère. Et donc j'en profite pour accueillir Baptiste Botella qui vient donc prendre sa place, la suite, au sein de l'équipe des Chemins de la Philosophie, à qui je souhaite la bienvenue. L'équipe, c'est aussi Géraldine Mosna-Savoie, bien sûr, Anaïs Isbert avec Lila Bozès cette semaine. C'est Laurence Malanda qui a réalisé cette série d'émissions pour vous. C'était Jean-Frédéric à la prise de son. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Alors, pour la semaine de Noël, on vous proposera un best-of des Chemins de la Philosophie cette année, le meilleur des chemins en 4 jours. On parlera donc de philosophie avec Husserl lundi, de cinéma avec Les Affranchis de Scorsese ou L'éthique du gangster, ce sera mardi. Qu'est-ce que le mal radical ? Évidemment, c'est une émission sur Kant, on vous la proposera mercredi. Et enfin, du théâtre. Olivier Py qui vous parle du Hamlet de Shakespeare. Tous les philosophes ont plié le genou devant le génie d'Hamlet, c'était la phrase d'Olivier Py. Et vous pourrez réécouter cette émission, donc jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez également réécouter en téléchargeant, en podcastant cette émission, soit à travers l'application Radio France, qui vous permet également d'écouter les émissions en direct, soit sur le site de France Culture. C'est très simple et ça vous permet d'écouter les émissions où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne rendez-vous donc lundi à 10h et d'ici là, vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À lundi, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.